Place Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Bonsoir, les retraites, un an de réflexion, les féminicides avec la charge de Jean-Pierre Raffarin, mais aussi la rentrée très dispersée à droite, Greta Thunberg à New York et Boris Johnson et le Brexit. C'est dans les informés avec Mariam Pirzadeh, journaliste, présentatrice, chroniqueuse à France 24, avec Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine, avec Étienne Girard, journaliste politique à Marianne, et Jean-Daniel Lévy, directeur départemental politique et opinion chez Harris Interactive. Bonsoir et bienvenue à tous.
Bonsoir.
Nous sommes ensemble à la radio, à la TV, jusqu'à 21h sur le canal de la TNT, le canal 27. Après l'âge pivot, voici donc le calendrier. Combien va durer la concertation citoyenne sur les retraites? Un an peut-être un peu moins, a révélé Gérald Darmanin, avant d'être rectifié par Édouard Philippe. Vous allez entendre successivement le ministre des Comptes Publics, c'était sur RTL ce matin, puis le Premier ministre en visite dans le Var, et le mot de la fin du même Gérald Darmanin, un peu plus tard avec France 3 Reims.
On va prendre un an, un petit peu moins d'un an, de concertation avec la société, avec les avocats, les infirmières, les fonctionnaires.
Dans la méthode, nous voulons prendre le temps de parler avec les Français pour faire un projet de loi qui sera présenté au Parlement, comme je m'y suis engagé, dans les mois qui viennent.
Ce matin, j'ai dit qu'on allait prendre le temps de la concertation. Il appartiendra au Premier ministre de préciser combien de mois.
Judith Weintraub, il a parlé un peu trop vite, Gérald Darmanin, ce matin.
C'est comment déjà la chanson, le premier qui dit la vérité? Voilà. On se doutait que l'un des avantages d'ouvrir une négociation avec les syndicats, puisque c'est le mot négociation qui est finalement retenu, puis une concertation-consultation, là il y a quelques hésitations de vocabulaire, c'était d'enjamber les municipales qui ont lieu en mars.
C'est ça l'idée en fait, c'est de dépasser mars, quoi, grosso modo.
Oui, ça fait 7 mois, hein, je viens de compter avec mes doigts.
Bravo.
Donc on est dans le un peu moins d'un an. Il fallait pas le dire.
Étienne Girard, un an ou presque, un peu moins, voilà, on reprend les mots, c'est la bonne distance?
C'est énorme, hein. Il y a évidemment la volonté d'enjamber les municipales, ce qui dénote d'une fébrilité, hein, de la part de l'exécutif vis-à-vis de cette réforme des retraites. Fébrilité compréhensible puisque les syndicats sont chauffés à blanc et donc cette réforme sera de toute façon compliquée. Alors un an, est-ce que c'est la bonne durée? On voit bien qu'il y a un effet de mode. En politique, il y a des modes. Il y a eu la mode du Grenelle. Aujourd'hui, c'est la mode du grand débat. Et donc, on fait des concertations.
L'une ne s'exclure pas l'autre, puisqu'il va y avoir aussi un Grenelle.
Oui, absolument.
Vous dites quoi, Étienne Girard? C'est pas la bonne idée, il faut pas débattre.
Alors, si il faut débattre, ça peut être une bonne idée, sauf si ça apparaît comme un gadget. Et au final, comme un artifice de communication, de marketing politique, dans lequel les dés seraient en réalité pipés. Et c'est ça toute la question. Est-ce que cette période de concertation est sincère? Est-ce que des lignes peuvent bouger? Parce que des voix se seront fait entendre, ou est-ce que tout est déjà ficelé et est-ce qu'il s'agit juste de faire avaler une potion plus ou moins amère aux Français? L'enjeu, il est là.
Mariam Pirzadeh, vous diriez, ça ressemble à du ficelage en règle, en amont ou pas?
Je pense que l'exécutif sait que c'est un dossier explosif qui peut jeter encore des milliers de personnes dans la rue et après plusieurs mois de gilets jaunes.
Là, sur les déclarations, là.
Oui, effectivement, personne n'est vraiment clair sur ce qui va se passer. Donc, on voit bien que ça va être compliqué, cette concertation citoyenne, finalement, après des mois de gilets jaunes, avec où il y a eu des concertations citoyennes, finalement. Est-ce qu'on sait vraiment est-ce qu'il y a un bilan de toutes ces rencontres, de toutes ces heures qu'a passé Emmanuel Macron avec la société civile, finalement?
Oui, Jean-Daniel Lévy, ces retraites, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de dire les choses clairement? Pourquoi est-ce qu'il y a cette hésitation sur chacun des sujets concernant les retraites?
Dire aux Français qu'ils vont travailler plus, qu'ils vont partir plus tard à la retraite et qu'ils risquent d'avoir une pension qui sera moins importante au final, c'est pas forcément le meilleur message en fait qu'on souhaite entendre d'une manière générale dans la société française, et c'est probablement ce qui va se dessiner. Ce qui est intéressant malgré tout dans le processus qui s'est orchestré, c'est que même s'il n'y a pas un bilan qui a été tiré des différents débats dans le cadre notamment du grand débat, c'est que d'un point de vue d'opinion, l'image d'Emmanuel Macron a quand même fortement changé au cours des 6 derniers mois. C'est-à-dire qu'en fait, il était quand même extrêmement bas dans les sondages d'opinion, il a tendanciellement progressé au cours des différents mois, et que même la perception de la part des Françaises et des Français d'un président qui était hautain, qui était distant, qui les connaissait pas, a tendance un peu à s'étioler. Alors, je parle pas de la réalité des choses, mais dans les représentations de la part des Françaises et des Français, à l'issue de ce grand débat, il y a quand même eu un regard à l'égard de l'exécutif, et notamment à l'égard du président de la République, qui a changé. Donc la martingale, ou en tout cas la méthode, donne d'un point de vue d'opinion, et pour faire passer un certain nombre de réformes.
Vous voulez dire quoi? C'est en répétant sur tous les sujets d'ailleurs, on va dialoguer, on va discuter, on prend le temps, ça corrige un petit peu l'image.
Ça corrige un peu l'image, et il y a parfois la critique qui est effectuée à l'égard des responsables politiques. Vous ne nous connaissez pas, vous ne nous écoutez pas, vous ne connaissez pas véritablement nos conditions de vie. Et donc, lorsque vous prenez des décisions, elles sont très éloignées de ce qu'on peut vivre, nous, en tant que citoyens, dans le cadre du quotidien. Et que dans ce contexte-là, ça permet de faire un petit matelas. Je dis pas que ça va marcher systématiquement, mais que, en tout cas, probablement que si le gouvernement a pris cette orientation-là, c'est du fait du bilan qu'il a tiré d'une opération qui est une opération grand débat.
Judith Vintraub, vous diriez, vous, au fond, que le président de la République a reculé sur cette question des retraites. Souvenez-vous ce qu'il déclarait lors de l'interview télévisée sur France 2 lundi l'âge pivot, c'est terminé, grosso modo, quoi.
Oui, il semblerait que l'âge pivot se soit enterré. Ce qui est curieux, c'est que dans sa déclaration de politique générale, Édouard Philippe en parlait comme d'un fait acquis, ou en tout cas d'un élément déterminant de la réforme.
C'est très évolutif, tout ça.
De la réforme à venir. Mais alors, je peux pas vous répondre oui et non, parce que ce qui caractérise le dossier des retraites en ce moment, c'est son flou, son ambiguïté. Vous savez, on cite toujours la grand-mère de Martine Aubry, quand c'est flou, il y a un loup. C'est qu'il y a un loup, et là, ils sont en meute. Des loups.
Une meute de loups, vous dites.
Une meute de loups.
Carrément. Étienne Girard, vous partagez ce point de vue? C'est trop compliqué, trop flou?
En fait, l'équation pour le gouvernement est très difficile à résoudre. Parce qu'il faut faire des économies. Et en même temps, il faut demander aux Français des économies sans qu'ils aient un sentiment d'injustice et sans faire basculer ces Français dans la rue. Donc, il faut faire passer la pilule. Donc, comment on fait passer la pilule? Là, on pourrait être dans un schéma de fuite en avant. C'est-à-dire, on va discuter. Il y a un moment où il faudra trancher quand même. La politique, c'est trancher. Alors, comment on tranchera? Comment on fera avaler cette pilule? Comment on fera avaler ces économies? Là, la question va s'entière.
Et comme l'a rappelé tout à l'heure Judith Vintraub, ce sera après les municipales. Allez, 20h10 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Diane Ferschit.
5 personnes arrêtées et présentées à un juge dans le Var. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à des degrés divers à la fusillade d'Olioul fin juillet. Fusillade qui avait fait 3 morts, dont une vacancière touchée par une balle perdue. Un des suspects a été mis en examen, entre autres pour homicide volontaire avec préméditation en bande organisée. Les professeurs ont fait leur rentrée des classes ce vendredi, 3 jours avant leurs élèves. Une rentrée marquée par l'inquiétude d'une partie du corps enseignant face à la réforme du lycée. Une réforme ambitieuse, a défendu le Premier ministre en déplacement dans le Var. L'ambition n'est pas un gros mot, à ajouter Édouard Philippe. Cette réforme supprime notamment les séries S, E, S et L. Elles sont remplacées par des enseignements de spécialité. L'avocat de la famille de Zineb Redouane dénonce sur France Info des propos mensongers et blessants de la part d'Emmanuel Macron et de deux de ses ministres. Zineb Redouane est cette octogénaire morte à Marseille en décembre dernier. Elle avait été touchée par un tir de grenade lacrymogène en marge d'une manifestation. Selon les plus hautes autorités de l'État, explique l'avocat, il n'y a eu aucun mort résultant de l'action des forces de l'ordre. Un soldat américain tué en Afghanistan alors que les États-Unis sont engagés dans des discussions sur le retrait de leurs troupes du pays. Le militaire est mort en opération. D'après l'OTAN, au moins 15 soldats américains ont été tués dans le pays depuis le début de l'année. En tennis, victoire de Roger Federer à l'US Open face au Britannique Daniel Evans dans le troisième tour. À suivre, Fiona Ferro qui va affronter la Chinoise Wang Qiang. Fiona Ferro est la dernière Française en lice dans le tournoi.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
99 femmes tuées en France par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année, cela relève de l'urgence nationale. La dernière victime, il y a 2 jours, une mère de 3 enfants tuée par balle dans la Vienne. Et voici ce qu'en a dit Jean-Pierre Raffarin ce matin, l'ancien Premier ministre, était l'invité de nos confrères de France Bleu Poitou.
Elle avait identifié le problème, elle était menacée et on n'a pas pu la protéger. Et donc on a une défaillance là claire de l'action publique. Et c'est vrai qu'il y a les associations, il y a les services de l'État, il y a les services sociaux. Mais là, visiblement, on n'est pas organisé aujourd'hui pour protéger des gens qui sont pourtant menacés.
Alors, à prendre le temps d'évoquer cette situation, Mariam Pirzadeh, défaillance de l'action publique. Les mots sont forts de l'ancien Premier ministre.
Oui, parce qu'il y a des défaillances aussi de la justice. Lorsqu'on lit les témoignages de ces femmes, de leur vie. Elles avaient lancé des alertes, elles avaient porté plainte à la police plusieurs fois, elles avaient prévenu qu'il y avait un danger pour elles. Et effectivement, on voit que leurs compagnons ou que leurs ex-compagnons n'ont pas été éloignés d'elles et qu'elles n'ont pas été protégées par la justice française. Je pense notamment au cas de cette jeune femme de 33 ans, Julie, en Corse. Lorsqu'on lit son calvaire qui a duré des années et que son ex-compagnon qui n'acceptait pas la séparation vivait tout près d'elle, on se rend compte que les services de l'État ne l'ont pas protégée. Alors effectivement, je pense qu'il y a une défaillance pour protéger ces femmes. Les associations ne suffisent pas pour les protéger de gens qui peuvent les tuer.
C'est tout le problème, Mariam, des moyens qui sont mis à disposition et qui ne sont pas déployés sur le terrain. C'est ça l'idée, finalement.
Oui,
c'est une question de moyens.
C'est une question de moyens. C'est du cas par cas, en fait. Là, c'est quand on fait des grenelles sur les féminicides, pour protéger ces femmes, il y avait encore une manifestation il y a deux jours devant l'hôtel de ville. Finalement, qu'est-ce qu'il y a de concret derrière pour protéger ces femmes?
Judith Vintraub, que dites-vous de cette situation? Il y a une forme d'urgence, on le répète chaque jour.
C'est pas juste une question de moyens, à mon avis. Quand vous connaissez les situations, dans des petites villes par exemple, c'est extrêmement compliqué de porter plainte dans la même ville, parce que les gens se connaissent, parce qu'il y a parfois un profil de compagnon violent qui aime bien passer du temps au bistrot, qui a des copains, et éventuellement des copains flics. Je dis pas que les flics passent leur vie au bistrot, mais c'est comme ça que ça se joue. Et du coup, la crédibilité de la femme qui se plaint, ou en tout cas la volonté de l'aider, ne sont pas là. Mais dans ces cas-là, il faut faire comme on doit faire à chaque fois qu'il y a une défaillance policière. Il faut faire une enquête, voir s'il y a défaillance ou pas, et s'il y a défaillance, sanctionner. On oublie toujours qu'il y a cette possibilité-là pour tous les délits, les crimes commis.
Elles sont seules, en fait, ces femmes. Elles sont seules face à elles.
Ça s'est quand même beaucoup amélioré, mais évidemment, il faut encore améliorer les choses énormément.
Mais
avec des instruments qu'on a, par exemple, de sanctionner des policiers qui auraient mal fait leur travail.
Oui, il y a un aspect juridique. Il y a un aspect de formation, évidemment, du personnel de police. Il y a un vrai aspect juridique, parce que le temps de la justice n'est souvent pas adapté au temps de la vie. C'est-à-dire que quand une femme dit « je suis menacée par mon conjoint, mon ex-conjoint », le temps qu'il soit possible de prononcer une ordonnance d'éloignement, ce temps-là, ça peut durer, ce que disent les avocats, c'est au minimum 2 semaines. C'est au minimum, donc ça peut être 2 mois. Donc c'est-à-dire que il y a tout un laps de temps dans lequel le droit ne peut pas protéger cette personne parce que il y a une présomption d'innocence et que donc il y a un juge qui doit évaluer le dossier, etc. Donc qu'est-ce qui doit substituer la justice? Les associations, évidemment. Et là, on retombe sur la question des moyens. Ce que disent toutes les associations, c'est qu'il y a un manque de moyens énorme, qu'il y a beaucoup de femmes qui voudraient être protégées, avoir un lit, l'espace d'une soirée, le temps de se retourner, et ce n'est pas toujours possible.
Alors, justement, les associations que vous évoquez, féministes, et pas que, réclament des moyens supplémentaires. Alors, c'est très précis, pour l'hébergement des victimes, une réforme, vous le disiez à l'instant tous, du fonctionnement de la justice, une meilleure, on y revient, formation des policiers et des gendarmes à ces sujets. Jean-Daniel Lévy, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce Grenelle qui arrive mardi des violences conjugales?
Peut-être qu'il y ait une forme de confrontation politique. Ce qui est intéressant, c'est que souvent en France, quand tout le monde est d'accord, les dossiers n'avancent pas véritablement. Et là, aujourd'hui, on est dans un contexte où, globalement, il n'y a pas de débat dans la société française. C'est-à-dire que l'immense majorité ou la quasi-totalité des Français, des acteurs, globalement, sont assez d'accord. Et qu'en général, lorsqu'il y a un consensus, ça n'aide pas tout à fait à agir. On peut le voir là-dessus, on peut le voir sur d'autres sujets. Ça peut être la thématique, même si elle est évidemment complètement différente, de l'égalité homme-femme dans le travail en termes de rémunération, où souvent en France, il y a besoin d'avoir des éléments qui permettent d'avoir des aspersions, ou enfin en tout cas des points de tension. Lorsqu'il y a eu des débats sur l'écologie, l'environnement, lorsqu'il y a eu des débats en fait sur un certain nombre de mesures sociales qu'on pouvait voir, au final, c'est du fait d'une confrontation que les sujets ont permis d'avancer assez rapidement. Là, c'est quasiment en fait, on voit bien des points sur lesquels, globalement, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit issu des catégories populaires ou des catégories supérieures, de gauche comme de droite, où globalement, il y a un jugement qui est un jugement relativement partagé et qui rend parfois les opérations plus difficiles à pouvoir, presque paradoxalement, se mettre
être mises à l'avant. C'est paradoxal ce que vous décrivez. Judith Vintraub, pendant ce temps, malheureusement, la liste des victimes, Salange m'avait dit glisser quelque chose de très surprenant, hors micro avant cette émission, vous n'appréciez pas l'appellation de féminicide. Pourquoi?
Non, je ne l'utilise pas parce que ces femmes qui sont tuées par leur conjoint ou ex-conjoint le sont parce qu'elles sont les ex-conjointes ou les conjointes, pas parce qu'elles sont femmes. Et c'est pareil d'ailleurs pour un enfant qui serait tué par son père. Son père ne l'a pas tué parce que c'est un enfant, il l'a tué parce que c'est son enfant. Donc on transforme avec un vocabulaire militant dont on connaît l'origine, hein, c'est les associations que moi j'appelle néo-féministes parce qu'elles.
Vous contestez ça ce soir, vous? Ça vous paraît, il y a un angle de tir qui vous paraît un petit peu trop, on va dire, militant.
Oui, c'est moi je trouve jamais bon que une cause soit vraiment accaparée par des gens, par exemple les féministes, par exemple
les femmes, c'est la réalité, non? Peut-être non.
À quel moment je l'ai contesté?
Non, pas du tout, mais c'est féminicide parce que ce sont majoritairement des femmes qui sont tuées sous les coups des conjoints.
L'infanticide a été même retiré du code pénal au nom de l'égalité entre tous les êtres humains.
Oui, Mariam Pirzadeh, la difficulté du fameux Grenelle, hein, je sais que Étienne Girard n'apprécie pas ce qualificatif de Grenelle.
Oui, pas fan.
La difficulté, c'est que le jour d'après, il faudrait qu'il y ait tout de suite des mesures efficaces, quoi.
Oui, exactement. On le disait, la machine judiciaire, elle est beaucoup trop longue. Enfin, chacun ne se ressemble pas. Alors, c'est un Grenelle, c'est beaucoup de moyens qui sont déployés, beaucoup de choses qui sont annoncées. Mais finalement, concrètement, ces femmes-là, enfin, leur vie, c'est terrible. Je pense qu'il n'y a pas de mots ce soir pour exprimer leur quotidien. Vous vous rendez compte? De vivre dans l'angoisse, d'être retrouvée par son ex-conjoint pour être tuée et de ne pas se sentir protégée. On est en France. Je veux dire, on est dans un pays où on a le droit de se sentir protégée, de se sentir soutenue. Et je pense, je le redis, ces femmes sont très seules. Les associations n'ont pas du tout les moyens. Donc effectivement, ce Grenelle, c'est le deuxième, si je ne m'abuse, sur ces victimes de violences conjugales. Que s'est-il passé entre le premier et celui-là, finalement?
Dernier mot là-dessus, Jean-Daniel Lévy, c'est un petit peu le risque, hein, de l'affichage politique de ce type de réunion qui est pourtant nécessaire. Hein.
Oui,
c'est qu'il faut qu'il y ait des résultats tout de suite derrière.
Et la suspicion qui existe d'une manière générale, vous parlez, et au final, il ne va pas forcément se passer grand-chose, que ce soit en termes de moyens ou quoi soit en termes d'efficacité. On sait que c'est déjà le cas lorsqu'il y a des lois qui sont votées, que c'est encore plus difficile lorsqu'il y a des concertations qui sont orchestrées avec un certain nombre d'acteurs et notamment d'associations.
Allez, le Grenelle des violences conjugales. Nous en reparlerons évidemment au début de cette semaine. Ça se déroulera ce mardi, 20h20 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Diane Ferchit.
La Floride et le nord des Bahamas face à une menace importante. L'ouragan Dorian devient ce soir un ouragan majeur de catégorie 3. Le gouverneur de la Floride a invité les habitants à stocker des vivres et de l'eau pour au moins une semaine et à se préparer à des coupures de courant et de téléphone pendant plusieurs jours. Un mois après la fusillade qui a fait 3 morts, dont une vacancière touchée par une balle perdue à Olioul dans le Var, 5 personnes ont été interpellées. Elles sont présentées à un juge. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à des degrés divers à cette fusillade, selon le parquet de Marseille. Face à la recrudescence des agressions contre des élus, Sébastien Lecornu, le ministre en charge des collectivités territoriales, s'est rendu aujourd'hui au chevet du maire de Sobins, près de Toulouse. Il a été agressé fin juillet. Ces actes, on ne peut pas les accepter, a affirmé le ministre, rappelant que l'an dernier, 145 maires et maires adjoints ont été victimes d'une agression physique. Elle avait déclaré à des enseignants: pensez à l'euthanasie si les reconversions ne vous conviennent pas. La directrice des ressources humaines du rectorat de Montpellier est mutée. Les syndicats considèrent qu'il s'agit d'une victoire. Le rectorat assure à nos confrères de France Bleu Héros qu'il s'agit d'un simple hasard de calendrier. Les mondiaux de judo au Japon et la France comptent désormais 5 médailles, dont 3 en or, avec aujourd'hui le titre de championne du monde décroché par Madeleine Malonga dans la catégorie des moins de 78 kilos. C'est son premier titre mondial après son sacre européen l'an dernier.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Allez, place à la droite pour cette rentrée politique. Elle se joue, on dit souvent, en ordre dispersé ce week-end. On va voir ça dans le détail. En guise d'apéritif, François-Xavier Bellamy, l'eurodéputé Les Républicains, sur France Info ce matin, eh bien, redit son opposition à la PMA.
J'irai manifester, tout à fait. Je crois que c'est important de prendre part à ce débat. Je le dis très simplement, je partagerai cette réflexion aussi avec les élus de notre famille politique. J'espère que nos élus seront nombreux à s'engager sur cette question parce que c'est une question fondamentale. Non, je ne serai pas tout seul.
Jean-Daniel Lévy, ça commence bien. Hein. C'est le marqueur qui arrive là tout de suite, la PMA. Voilà.
En tout cas, de sa part, le contraire aurait été surprenant. On sait qu'il s'est construit pour partie là-dessus. On sait que le début de sa campagne dans le cadre des élections européennes s'était faite là-dessus et qu'il a toujours indiqué qu'il s'agissait d'un des points auxquels il était profondément attaché. C'est pas forcément l'aspect sur lequel, d'une manière générale, les électeurs de droite sont spontanément les plus mobilisés. On l'a vu dans le cadre des débats passés, notamment lorsqu'il y avait l'ouverture du mariage ouvert aux homosexuels, mais que par la suite, la traduction politique qui s'en était faite, aussi bien au cours des élections municipales de 2014 que même de la dernière élection européenne, a montré que c'était pas forcément le seul registre de comportement électoral de la part de l'électorat traditionnel.
Judith Vintraube, cette droite est toujours en ordre dispersé. Je donne dans le détail sans trop insister. Hein. Christophe Béchu, le maire d'Angers, réunissait aujourd'hui une trentaine de maires pro-Macron avec quelques difficultés ça et là. Vous avez Christian Estrosi et Valérie Pécresse qui vont se réunir à part. Et demain, les Républicains, on va dire classiques, qui se retrouvent à la Baule. Est-ce que cette famille-là va se réunir un jour, selon vous?
Eh bien, je n'en sais rien. En tout cas, sur la PMA, c'est pas parti pour, parce que sur la centaine de députés que compte le groupe Les Républicains, je crois qu'ils sont 99, hein, au dernier comptage, il y avait une vingtaine qui voulaient voter le texte carrément et une vingtaine s'abstenir. Donc ça fait quand même un gros déficit. Ça sera pas, en tout cas, un combat en rang serré et une bataille
bien
rangée.
Mais ils sont définitivement divisés, ces Républicains, cette droite nationale. Elle est finalement, le divorce est consommé, c'est fait ?
Non, je ne pense pas que le divorce soit consommé parce que je vous dis que le groupe est très divisé sur la PMA et en même temps, je pense que ça va se faire sans drame puisque de toute façon, Christian Jacob, qui est le président du groupe, a donné la liberté de vote et de conscience à chacun, ce qui était une mesure de prudence et même de salubrité pour la cohésion du groupe. Et sur les autres sujets, alors, ça va être quand même intéressant, même si le suspense n'est pas au rendez-vous, de suivre l'élection à la présidence des Républicains, parce que vous avez quand même l'incarnation avec Guillaume Larrivé qui est sur une ligne filloniste en ce qui concerne les mœurs, qui va déposer une proposition de loi pour inscrire l'interdiction de la GPA dans la Constitution, qui va voter contre la PMA, qui est pour un régalien très fort, qui est pour le droit du sol, une incarnation d'une droite qui était celle qui votait Fillon, grosso modo, plutôt libérale et plutôt conservatrice sur le plan des mœurs. Et en face, vous avez Julien Aubert, député...
Mais vous avez la sensation que ça va passionner...
Laissez-moi finir député du Var, qui lui défend une ligne souverainiste. Mmh. Et ça, c'est vraiment une fracture profonde qui traverse la droite et qui traverse à peu près d'ailleurs tous les partis, sauf En Marche, qui s'est créé normalement, en tout cas, sur le sentiment pro-européen et le libéralisme, normalement,
Mariam,
en théorie.
Pierre Azadé, vous avez la sensation que cette compétition va passionner les foules à la rentrée, parce que ça manque peut-être un peu d'incarnation, au fond, pour les Français, quoi.
On a un petit peu de mal à voir où est la droite aujourd'hui. On voit bien que le virage pris, enfin la droitisation voulue par Laurent Wauquiez n'a pas du tout porté ses fruits. Que la personne qui est à la tête des Républicains aujourd'hui était aussi chargée de la fin de vie. Beaucoup ont ironisé dessus, Jean Leonetti. Donc ça prouve bien que finalement maintenant les Républicains n'existent plus vraiment sur l'échiquier politique. Enfin, c'est parce que toutes les personnes qui étaient au centre, déjà ils perdent beaucoup d'adhérents, beaucoup de militants, et que toutes les personnes qui se situaient au centre droit sont parties en marche. Donc ils ont du mal aussi à voir quel est leur électorat, sur quelle droite ils se positionnent.
Étienne Girard, je vous vois acquiescer.
Oui, rappelez-vous, il y a 3 ans, la primaire de la droite, record d'audience, Sarkozy, Fillon, Juppé, des personnalités que tout le monde connaît. Cette année, Jacob, Larrivé, Aubert... Il n'y aura même pas un débat sur les chaînes dites herdiennes. C'est bien le signe qu'il y a un rétrécissement du champ de ce parti. Pourquoi ? Parce qu'il a été totalement vampirisé par Macron, qui, sur les questions économiques, alors on peut ergoter, rentrer dans les détails, mais grosso modo, Macron, sur les questions économiques, fait le programme de la droite. Mmh. Et c'est d'ailleurs pour ça que, voyant qu'ils ne peuvent cliver sur les questions économiques, certains membres des Républicains se remettent à évoquer des sujets sociétaux. Oui, mais les sujets de mœurs, ils seront toujours, désormais, beaucoup plus un facteur de division que de rassemblement, même à droite.
Une poignée de secondes avec vous, Jean-Daniel Lévy. Vous validez ce qu'évoque à l'instant Étienne Girard?
Oui, je valide ce qu'il dit. Puis en fait, l'exemple en fait par les dirigeants, et je crois notamment à droite le meilleur exemple, c'est-à-dire que la droite a souvent été divisée. On sait qu'elle est divisée en trois courants de pensée historiques, mais que
depuis
toujours, mais que lorsqu'il y a un chef et lorsqu'il y a un dirigeant politique qui donne le sentiment qu'il peut les mener collectivement à la victoire, globalement, ces tensions internes ont tendance à s'apaiser. Là, la difficulté, c'est qu'il y a aucun leader qui s'impose naturellement au sein de la droite pour pouvoir laisser espérer que la prochaine présidentielle est gagnable pour la droite.
Et nous verrons ce qui va se produire ce week-end dans ses rangs, 20h28 sur France Info. C'est la pause, la météo, le rappel de l'info. On se retrouve dans un instant pour la suite des informés.
Vis-à-vis, Fernand Léger et ses amis, une exposition au Musée National Fernand Léger avec France Info. Peintre, sculpteur, poète et architecte, de Calder à Robert Delaunay, en passant par Matisse et Picasso, l'exposition est consacrée aux échanges amicaux et artistiques que Fernand Léger entretient avec ses contemporains tout au long de son parcours artistique. Vis-à-vis, Fernand Léger et ses amis, jusqu'au 23 septembre au Musée National Fernand Léger, à Biote, sur la Côte d'Azur, près d'Antibes, en partenariat avec France Info.
Politique,
enquête,
sport,
invité,
culture,
interview,
économie. Pour l'info 24h sur 24, France Info, et tout est plus clair. France Info Météo, avec Gauthier, séjour, salon, chambre et dressing, le mobilier pour toute la maison à retrouver dans nos magasins et sur gauthier.fr.
France Info, les prévisions météo avec vous, Elodie Calac pour Météo France.
Encore une très belle journée demain, on se réveillera sous le soleil, juste quelques grisailles vite effacées vers le nord-ouest, le Pays Basque ou le Roussillon. Au fil des heures, des nuages se développeront sur les Alpes jusqu'à l'intérieur de la Provence avec des averses, puis des orages l'après-midi. On aura aussi un risque orageux entre les Pyrénées, le Massif central, Rhône-Alpes et le nord-est. Et puis ça se gâtera sur la Bretagne et le Cotentin, beaucoup de nuages, parfois un peu de pluie. On trouvera également quelques passages nuageux des Pays de la Loire vers la baie de Seine et les Hauts-de-France. Il fera chaud, 23 degrés au Havre, 26 à Rennes, Biarritz, 30 degrés à Lille, 31 à Paris, 32 à Strasbourg, Agen, Marseille, 33 degrés à Nevers, Lyon et Toulouse, 34 à Nancy ou Avignon. Dimanche, les températures baisseront nettement, il ne fera plus que 18 à 25 degrés, encore 30 à 32 autour de la Méditerranée. On aura de belles éclaircies au nord, mais davantage de nuages dans le sud et dans l'est avec un peu de pluie ou des averses orageuses.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Quel calendrier pour la réforme des retraites alors que l'exécutif veut consulter les Français sur le sujet. Ce matin, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, évoquait une concertation de plus ou moins un an. Alors qu'à la mi-journée, Édouard Philippe assurait lui que le projet de loi serait bien présenté dans les mois qui viennent. Initialement, il devait voir le jour avant la fin de cette année et être présenté en Conseil des ministres. Le calendrier reste donc dans le flou le plus total ce soir, Julie-Marie Lecomte.
Sa détermination est peut-être totale, comme dit Édouard Philippe, mais il faut ajuster. Emmanuel Macron veut associer les Français à la construction de la réforme, une manière de grand débat thématique dont les modalités ne sont toujours pas arrêtées. Près de 10 jours après l'annonce par Agnès Buzyn, la ministre chargée du dossier, d'une concertation citoyenne, le président de la République parle, lui, de consultation. Le Premier ministre renvoie à la fin de la semaine prochaine pour les précisions, après le séminaire gouvernemental de rentrée mercredi et après sa rencontre avec les syndicats et le patronat les 2 jours suivants. Dans le détail, rien n'est encore arbitré selon Matignon comme selon l'Élysée. Édouard Philippe soutient en tout cas que son objectif est de prendre le temps de discuter, pas d'en gagner à 7 mois des municipales et donc d'un possible vote sanction. En laissant entrevoir des débats qui dureraient presque un an, Gérald Darmanin a donc fait une boulette, souffle-t-on en coulisses.
Julie-Marie Lecomte, trois jours avant leurs élèves, les 670 000 enseignants faisaient leur rentrée aujourd'hui avec une réforme des lycées qui inquiète une partie des enseignants de première. Ils redoutent en effet des dysfonctionnements dans les emplois du temps et une charge de travail supplémentaire. La directrice des ressources humaines du rectorat de Montpellier a été mutée, selon nos confrères de France Bleu Hérault, en février dernier. Lors d'une réunion dans un lycée, elle avait tenu des propos déplacés devant des enseignants à Béziers. Leur conseil ayant de penser à l'euthanasie si les reconversions qu'on leur proposait ne leur convenaient pas. Il avait été grièvement blessé il y a 2 ans lors d'une interpellation policière à Aulnay-sous-Bois, près de Paris, gravement blessé par un coup de matraque au niveau de la zone rectale. Le jeune Théo Luaka présente une infirmité permanente d'après une expertise médicale qui pourrait ouvrir la voie à un procès aux assises. 4 policiers ont été mis en examen dans cette affaire, dont l'un pour viol. La vigne tricolore a peu apprécié le cocktail météo mélangeant gel printanier et canicule estivale. La production française de vin devrait atteindre 43,4 millions d'hectolitres cette année. C'est une baisse de 12% et de 4% par rapport à la moyenne des 5 dernières années en France. Seul le sud-est devrait voir sa production augmenter en volume. Et puis après sa défaite face à l'Écosse la semaine dernière, le 15 de France reçoit l'Italie tout à l'heure à 21h10. Dernier match de préparation des Bleus à la Coupe du Monde qui débute au Japon.
20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Avec nos invités, Mariam Pirzadeh, journaliste, présentatrice, chroniqueuse à France 24, avec Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine, avec Étienne Girard, journaliste politique à Marianne, et Jean-Daniel Lévy, directeur département politique et opinion chez Harris Interactive. Alors il ne se passe plus un jour sans évoquer l'urgence climatique, figure de proue du combat pour la planète, Greta Thunberg. Après sa traversée de l'Atlantique à la voile, manifestée aujourd'hui devant le siège des Nations Unies à New York, la jeune militante suédoise qui participe, faut-il le rappeler, au Friday for Future, le mouvement qu'elle a créé il y a 1 an. Bonsoir à vous, Loric Loury, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes,
bonsoir.
Je le rappelle, correspondant de France Info à New York. Alors que Loïc, y avait-il autant de monde devant l'ONU que lors des manifestations en Europe?
Non, absolument pas. Et c'est d'ailleurs la chose, à mon avis, qu'il faut retenir de ce sit-in. C'était valable également il y a 2 jours lorsque Greta Thunberg est arrivée ici à New York. Il y avait aujourd'hui pas franchement foule, quelques centaines de personnes, beaucoup d'adolescents, des enfants également avec 1 ou 2 parents. Pas grand-chose hein, pour une grande ville progressiste comme New York en comparaison à ce qu'on a pu voir dans plusieurs villes européennes depuis 1 an. On pense notamment à Bruxelles, à Francfort également. Ouais. Aujourd'hui, il y avait des milliers de personnes rassemblée. Greta Thunberg, Jean-François, est encore une inconnue ici aux États-Unis. Cela va peut-être changer grâce à la présence massive des médias, alors certes souvent européens, mais tout de même il y avait des dizaines de caméras braquées sur elle aujourd'hui. C'est beaucoup pour quelques centaines de militants. Ce sera tout l'enjeu des 3 prochaines semaines. L'activiste doit se montrer, se faire connaître, mobiliser avant le sommet dont vous parliez à l'ONU le 23 septembre et avant une grande manifestation également 3 jours plus tôt.
Alors je vais vous solliciter à mon tour. Est-ce que vous pensez qu'elle peut susciter, Greta Thunberg, un engouement similaire que celui qu'on a connu chez nous en Europe, au pays de Donald Trump?
Non, à mon avis, ça sera assez compliqué. Vous parlez de Donald Trump, le mieux peut-être, Jean-François, pour Greta, ce serait justement un tweet du président américain. Greta l'a un petit peu attaqué ces derniers jours. Donald Trump n'a pas répondu alors qu'il est d'habitude extrêmement bruyant, un tweet de Donald Trump. Donc cela permettrait peut-être de mobiliser un peu les militants climat qui ne connaissent pas vraiment Greta Thunberg. Ça reste actuellement une figure principalement européenne. Elle n'a pas vraiment fait la une des journaux lors de son voyage en bateau, pas de débat lors de son arrivée ici à New York, pas de foire d'empoigne comme vous avez pu connaître en France lorsqu'elle était venue parler à l'Assemblée nationale.
Allez, merci à vous Loïc Loury en direct de New York. Merci pour ce récit. En fait, pas beaucoup de monde, Mariam Pirzadeh, vous êtes surprise?
Alors, surprise, oui et non, parce qu'elle crée de plus en plus des divisions, cette Greta Thunberg. Alors, effectivement, quand elle a commencé à lancer ce mouvement d'école buissonnaire et de manifestation le vendredi, ça a été érigée en icône. Elle a 16 ans, elle est atteinte d'autisme, elle parle très bien anglais, elle est suédoise, elle ne se déplace uniquement qu'en train. Et finalement, ce qu'elle dénonçait ont été suivis de fait. Le réchauffement climatique, vous en parliez. En plus, en ce moment, c'est en plein dans l'actualité avec l'Amazonie, où les feux se multiplient. L'Islande aussi, il y a quelques jours, qui a commémoré son premier glacier disparu. Donc il y a ces faits-là, effectivement, que nous, on voit et qu'on relaie. Et de l'autre côté, il y a les critiques, effectivement, de plus en plus fortes. On l'accuse d'être sponsorisée par des lobbies. Elle a 16 ans, il y a forcément quelqu'un derrière. C'est pas possible qu'elle soit toute seule. Même Nicolas Sarkozy l'a critiqué aujourd'hui. Oui. Donc, surprise, oui et non. Après, je pense qu'elle est plus populaire en Europe qu'aux États-Unis. Et effectivement, quand on voyait son arrivée à New York, avec elle a traversé l'Atlantique pendant 2 semaines, il n'y a pas non plus une grande foule qui l'attendait à l'arrivée.
Judith Weintraub, vous comprenez l'engouement qu'elle suscite, mais chez nous en Europe, mais pas forcément apparemment outre-Atlantique.
Ah oui, moi je comprends l'engouement, parce que c'est impossible d'être contre Greta Thunberg. Pour les raisons que vous avez dites, d'ailleurs, son Asperger, sa préoccupation pleine et entière par cette question climatique qu'il absorbe, cette façon de faire la leçon aux politiques, c'est tout pour être populaire et populaire.
Ça vous agace, ça ?
Moi, pas du tout. Qu'est-ce qui vous fait penser ça ?
Non,
populaire, auprès... non, ce qui m'agace. Oui. Je vais vous dire ce qui m'agace. Allez-y. Ce qui m'agace, c'est que Emmanuel Macron, qui l'a reçu, le gouvernement tout entier, qui lui tresse des couronnes, est décidé, par exemple, d'interrompre le programme Astrid. Vous savez ce que c'est, le programme
Allez-y,
Astrid
expliquer.
Le programme Astrid, c'est un réacteur de recherche qui a cette particularité, réacteur nucléaire, bien sûr, qui a cette particularité de pouvoir recycler indéfiniment le plutonium. Donc, c'est vraiment le modèle parfait en économie circulaire. Mais on l'a arrêté. Pourquoi ? Pour des raisons budgétaires. C'est de la recherche. C'est pas censé rapporter de l'argent de la recherche. En revanche, la France... on le sait déjà, est très peu émettrice de CO2, de gaz à effet de serre, grâce aux 75% de nucléaire dont provient son électricité. Elle a intérêt à rester en pointe et à arrêter la recherche nucléaire pour des raisons budgétaires. Ça, je trouve ça vraiment très dommage.
Étienne Girard, sur cette incarnation mondiale de la lutte pour la préservation du climat.
Il me semble qu'il y a un paradoxe, Greta Thunberg, en fait, parce qu'elle prétend lutter contre la consommation, le capitalisme, c'est une égérie de cette lutte. Là, et en même temps, c'est un produit marketing dans la plus pure tradition capitaliste. C'est-à-dire que son combat, il est basé sur un storytelling imbattable, mais je me demande à quel point, en réalité, c'est convaincant et à quel point elle fait bouger les lignes. C'est-à-dire que... Elle rend les gens curieux. Les gens sont curieux de Greta Thunberg. C'est un objet de curiosité, vraiment. À chaque fois qu'elle se déplace quelque part, il y a des caméras. Mais est-ce que, sur le combat contre l'écologie, ce qu'elle dit fait bouger les lignes ? Est-ce qu'à 15 ans, à 16 ans, on peut vraiment être un mentor d'une lutte politique ? Il me semble qu'il y a une question sur la crédibilité. Parce est-ce que qu'à 15 ans, à 16 ans, elle ferait pas mieux de finalement d'aller au lycée ? Est-ce que bouger les lignes, ça devrait pas être réservé à des gens qui ont lu des livres, qui sont des politiques ou des militants ou des activistes ?
C'est une très bonne question que vous posez là ce soir, Étienne Girard. On va donner la parole dans un instant à Jean-Daniel Lévy. On marque une pause, 20h40 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Diane Ferschit.
Un homme de 38 ans mis en examen pour assassinat est placé en détention provisoire à Poitiers. Il est l'ex-compagnon d'une femme de 30 ans tuée au fusil avant-hier dans la Vienne. L'homme a reconnu être l'auteur du coup. Il affirme s'être rendu chez elle avec une arme pour l'intimider et lui avoir tiré dessus involontairement. C'est le 99e féminicide depuis le début de l'année en France. Il faut qu'on arrête de prendre ce qui est un scandale pour une fatalité, réagit sur France Info Emmanuelle Wargon, la secrétaire d'État auprès du ministère de la Transition écologique et solidaire. Le Premier ministre
Édouard Philippe l'assure, le projet de loi sur la réforme des retraites sera examiné dans les mois qui viennent au Parlement. Son ministre des Comptes publics évoquait pourtant lui ce matin une concertation de près d'un an. « Ma détermination est totale », rappelle Édouard Philippe, mais ajoute-t-il, « dans la méthode, nous voulons prendre le temps de partager sur un texte aussi important ». Une hausse sans précédent du nombre d'arrivées de migrants sur l'île grecque de Lesbos. Plus de 500 hier soir en provenance des côtes turques, parmi eux 240 enfants. Ils ont été transférés au camp déjà surpeuplé de Moria. 11 000 personnes y sont entassées d'après Médecins sans frontières, alors que sa capacité n'est que de 3 000. À Hong Kong, deux autres parlementaires pro-démocratie arrêtés. Ils sont trois au total à avoir été interpellés depuis ce matin. Les associations dénoncent une tentative chinoise de museler l'opposition après l'interdiction d'une grande manifestation prévue demain. La quatrième journée de Ligue 1 de football avec dans quelques minutes le Paris Saint-Germain qui se déplace à Metz. Les Parisiens sans Neymar, la question de son transfert n'est toujours pas réglée.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Jean-Daniel Lévy, pour rebondir sur ce que disait Étienne Girard, faut-il de telles incarnations pour faire avancer les sujets? C'était le cas, la question se posait jadis en France, hein, avec Nicolas Hulot. En fait.
C'était le cas avec Nicolas Hulot, et c'est le cas notamment lorsqu'il y a des mouvements sociaux, lorsqu'il y a des mouvements de société. Elle a quand même peut-être fait bouger les lignes de deux manières. Le premier aspect, c'est qu'il y a eu, on l'a vu, des mobilisations de la jeunesse les vendredis en France, et qu'il y a eu une conséquence non négligeable sur le comportement électoral des Français au cours des dernières élections européennes, et notamment d'une partie de la jeunesse qui ne pensait pas forcément aller voter et qui a voté en faveur des listes qui étaient conduites par Yannick Jadot. Et puis le deuxième aspect, même le président de la République dit qu'il n'a pas été insensible à cela. Donc il a donné une interview, en plus pas sur n'importe quel média, sur Combini, et en disant que ce qui l'a fait changer, c'était pas forcément en fait les rapports qui étaient les rapports officiels, mais c'était le fait qu'il y avait eu des mobilisations qui s'étaient effectuées dans la rue et de mobilisations de la part de la jeunesse. Alors je dis pas que ça va forcément être effectif en termes de comportement électoral, mais qu'il y a quand même aujourd'hui un poids qui est un poids non négligeable et qui va se prolonger. Peut-être ça va faire le lien avec, ouais, le premier sujet qu'on avait évoqué, avec le Conseil économique, social et environnemental qui va réunir 150 citoyens pour définir de nouvelles modalités de capacité à pouvoir effectuer la transition énergétique en France.
Alors à propos des incarnations, hein, ce que nous évoquons à l'instant, Nicolas Sarkozy, vous l'évoquiez tout à l'heure, devant le cher Mariam Pirzadeh, devant le MEDEF, a ironisé donc sur Greta Thunberg, évoquant, je le cite, cette jeune Suédoise si sympathique, si souriante et tellement originale dans sa pensée, provoquant l'hilarité générale. Que dire des mots de l'ancien président? Question posée tout à l'heure à Emmanuelle Wargon, la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, qui était l'invitée du 18-50 France Info.
Moi, je suis mal à l'aise avec les attaques contre Greta Thunberg. Parce que Greta Thunberg, elle porte une voix, qui est la voix de la jeunesse, dans laquelle la jeunesse se reconnaît, pour nous dire il faut agir vite face au réchauffement climatique. Et les attaques sur son look, sa personnalité et son style, je trouve que c'est une manière de ne pas répondre vraiment à la question. Là où je ne suis pas complètement d'accord avec son message, c'est qu'elle nous dit « je vous demande à tous de paniquer ». Et en fait, non, on n'a pas à paniquer, ni les décideurs publics, ni les entreprises, ni même les citoyens.
Voilà, Mariam Pirzadeh, cette membre du gouvernement qui, au fond, conteste un petit peu quelque part le message, la teneur du message, la panique, le côté anxiogène, finalement, de ce qui est dit.
Bah, c'est vrai que cette adolescente de 16 ans, alors quand les premières critiques ont émané lorsqu'elle est venue en France, c'était difficile à lire des fois parce qu'elle était attaquée sur son âge, sur effectivement ça vient de s'habiller, mais on s'éloigne du propos qu'elle porte. Alors maintenant il y a des polémiques aussi, sa fameuse traversée de l'Atlantique durant 2 semaines, il y a des membres d'équipage qui vont quand même faire un New York, qui vont prendre l'avion pour revenir en Europe. Donc on voit bien qu'effectivement elle prône une parole et finalement est-ce que c'est suivi des faits? C'est vrai qu'on a du mal à savoir, mais elle porte. J'ai l'impression aussi que depuis Greta, ces images choquantes, on se rappelle de cet ours polaire qui s'est retrouvé à 800 km de chez lui, ces glaciers qui fondent, cette Amazonie qui brûle. J'ai l'impression aussi qu'on y porte peut-être un peu plus d'attention. On le regarde. Et comme vous le disiez, quand on regarde les élections européennes, c'est beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont voté pour Yannick Jadot. Donc ça devient une préoccupation plus forte que peut-être l'économie.
Bah oui, mais pour quelle décision politique? Si j'ai parlé tout à l'heure d'Astrid, ce réacteur nucléaire de recherche qui nous permettrait de rester en pointe en termes de nucléaire, c'est parce que il faut choisir. Emmanuel Macron, que je sache, n'a pas encore dit qu'on allait totalement arrêter le nucléaire dans un horizon proche. Il a même plutôt retardé les échéances. Or, pour l'instant, et même dans les scénarios du GIEC,
qui est le pape en matière de climatologie, tous les scénarios pour limiter le réchauffement climatique incluent le nucléaire. Tous les scénarios qu'il préconise.
Alors là, vous militez pour le nucléaire ce soir, oui. Allez-y,
parce que je milite pour l'efficacité en termes de climat.
Comment vous faites face aux plus grands pollueurs de la planète, à la Chine, à l'Inde, aux États-Unis, les États-Unis qui sont sortis de l'accord sur le climat, la Chine qui pollue la planète beaucoup plus que d'autres, finalement, est-ce que la France, elle peut vraiment jouer un rôle pour réduire le réchauffement climatique ou à sa petite échelle? Je trouve que c'est compliqué quand les grandes puissances du monde qui polluent le plus notre planète le font en toute impunité, en fait.
Bah oui, mais la Chine.
Judith Vintraud, je rappelle au sujet du nucléaire, sans être un opposant ni un partisan de la chose, qu'il y aura quand même un petit sujet, on va dire, du traitement des déchets massif, mondial.
C'est pour ça que je parlais d'Astrid.
Et du démantèlement des centrales qui sont en fin de vie aussi, qui va coûter des milliards. Oui, donc il y a quand même un autre sujet sur la table.
On n'a pas encore trouvé l'énergie qui ne pollue absolument pas et qui permet de combler les besoins humains. C'est ennuyeux, mais c'est comme ça.
Oui, en tous les cas.
Donc il faut faire la moins pire, et la moins pire, c'est le nucléaire.
Jean-Denis Lévy, en tous les cas, ce côté anxiogène du message peut-être qui est porté ne colle pas avec ce que le Premier ministre a vanté hier à Roubaix, je cite aussi l'écologie souriante. On a l'impression que le gouvernement s'empare du sujet désormais et s'en empare très largement.
Oui, enfin, aujourd'hui parler d'écologie, c'est parler de la fin de l'espèce humaine. Hein. Enfin, d'une manière générale, enfin, quand on interroge les Françaises et les Français, enfin la fin du monde. Donc le côté souriant, on va dire, apparaît comme étant assez relatif. Donc on n'est pas forcément pour l'amélioration véritablement de la qualité de vie, mais plus pour la sauvegarde de l'existence. Alors après, est-ce que ça veut dire que globalement on est face à des Français qui mettent aujourd'hui, comme c'était le cas au cours des années 90 ou 2000, en opposition fin de mois ou fin du monde? Pas forcément. Et on voit bien à travers cette enquête que on entrevoit des possibilités de pouvoir faire différemment, pouvoir mener en fait des procédures qui peuvent être des procédures de recyclage, réfléchir en fait éventuellement au fait de pouvoir repriser, bricoler, refaire les choses, ou éventuellement faire soi-même, avec l'idée qu'il s'agit pas forcément uniquement de l'amélioration en tant que telle, mais d'un aspect qui apparaît comme étant absolument essentiel, auquel même les catégories populaires aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles que par le passé.
Et vous dites ce soir, Jean-Denis Lévy, que ces sujets, ces thématiques vont fortement impacter la campagne qui se dessine, celle des élections municipales aujourd'hui.
Absolument, et quand on regarde dans les différentes enquêtes qu'on peut voir, indépendamment du comportement électoral, que les préoccupations en matière d'écologie et d'environnement, qui peuvent se traduire de différentes manières, en matière de circulation, de qualité de l'air, de qualité de l'eau, du bruit, de ce qu'on peut donner à manger à nos enfants dans le cadre des cantines scolaires, constituent des points sur lesquels, effectivement, les candidats aux prochaines élections municipales seront fortement attendus.
Étienne Gérard, vous confirmez les quelques rares pages environnement jadis dans nos magazines, notamment Marianne, sont devenues quelque part le cœur de cible d'électorat.
Bien sûr, il y a une prise de conscience assez spectaculaire ces dernières années sur cette question-là. Prise de conscience qui s'arrête parfois quand commence la question économique. C'est-à-dire que, bien sûr, on veut être écolo, mais est-ce qu'on est prêt à payer plus pour être écolo? La crise des gilets jaunes a montré qu'il y avait une difficulté encore, peut-être, sur cette question-là. Et la campagne des municipales sera passionnante sur ce sujet précis, et notamment sur le sujet des cantines scolaires, parce que il y a un certain nombre de maires ou de candidats qui vont proposer dans leur programme municipal de passer au bio dans les cantines scolaires, et évidemment il y aura une contrepartie, c'est que les impôts pourraient augmenter. Est-ce que les électeurs seront prêts à accepter de payer un peu plus ou en tout cas la taxe sur la cantine, est-ce qu'ils seront prêts à payer un peu plus pour manger bio? Et ben, ce sera intéressant de le voir.
Et Mariam Pirzadeh, sauver la planète au passage quand même, il faut le rappeler.
Oui, exactement, triste que je vais dire, mais sauver la planète ça coûte cher. Lorsque vous faites vos courses dans un magasin bio,
lu les enquêtes récentes sur le bio.
Oui, effectivement. Vous comparez un magasin bio et un magasin normal, vous voyez que vous avez quand même beaucoup plus de choses dans un magasin normal pour le même prix que dans un magasin bio. Ça coûte cher. Mais effectivement, il y a une prise de conscience. On achète moins, on reprise.
Il y a une arnaque du bio.
Quelque chose s'est enclenché.
Il y a une arnaque du bio. Allez,
nous allons traverser la Manche dans un instant, 20h50 sur France Info. Rappel de l'info tout d'abord avec vous, Diane Verschiet.
Dans le Var, 5 personnes arrêtées et présentées à un juge. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à des degrés divers à la fusillade d'Olioul fin juillet. Fusillade qui a fait 3 morts, dont une vacancière touchée par une balle perdue. Le maire d'Olioul salue ce soir sur France Info le travail remarquable, selon lui, de la police judiciaire. Le risque d'incendie s'annonce élevé dans le Gard à partir de dimanche et toute la semaine prochaine. Le département est particulièrement touché par de très fortes chaleurs. Une sécheresse intense et prolongée depuis le mois de juin. Météo France annonce des rafales de vent de 70 à 80 km/h. Plus de 2 ans et demi après son interpellation en Seine-Saint-Denis, une expertise médicale réalisée pendant l'été conclut que le jeune Théo va en garder des séquelles à vie. Le jeune homme avait été grièvement blessé par un coup de matraque au niveau du rectum. Dans cette affaire, 4 policiers ont été mis en examen, dont un pour viol. 2 jours après son arrivée aux États-Unis, la jeune militante suédoise Greta Thunberg a participé à sa toute première manifestation new-yorkaise pour le climat. Elle est restée silencieuse pendant cette mobilisation aux côtés de plusieurs centaines de jeunes. Ils ont défilé devant le siège de l'ONU. Le 15 de France affronte l'Italie ce soir au Stade de France. C'est le dernier match de préparation des Bleus en vue du Mondial. Il débute le 20 septembre au Japon. Coup d'envoi ce soir à 21h10.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Killing.
Allons-nous vers un Brexit dur? Le no deal semble probable. C'est du moins ce qu'a laissé entendre Amélie de Montchalin, la secrétaire d'État chargée des affaires européennes sur BFM TV ce matin.
Le choix du no deal.
Oui.
Je vous dis que c'est probable parce que c'est un choix des Britanniques.
Oui.
C'est Boris Johnson et son Parlement qui doivent décider souverainement ce qu'ils veulent faire. L'accord européen, il est toujours sur la table.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Boris Johnson ne bouge pas, il y aura no deal.
C'est ce qui peut... C'est exactement.
Exactement. Donc,
s'il ne se passe rien, c'est le no deal.
Mariam Pirzadeh, c'est le scénario qui se dessine, on y est.
Bah, a priori, lui, il s'en cache pas. De toute façon, le 31 octobre, il sort son pays de l'Union européenne avec ou sans accord. Là, il suspend le Parlement britannique pendant 5 semaines. La reine a donné son accord. Il n'y a jamais une telle suspension d'une durée aussi longue depuis 1945. C'est énorme. D'ailleurs, la population, les Britanniques qui manifestent devant Westminster crient au coup d'État parce qu'ils voient bien que lui ne va. Les Européens ne veulent pas renégocier.
Avec les pro-Brexit face à eux, quand même. Hein.
Il y a les pro-Brexit, il y a les anti-Brexit. Enfin, faut quand même se rappeler que ce Brexit, il a été voté en juin 2016. Donc ça va faire presque 3 ans et demi. Et on voit bien que plusieurs premiers ministres se sont cassés les dents sur ce Brexit. La dernière, c'est Theresa May. Elle a eu plus de 30 démissions, tellement c'est un sujet compliqué. Donc là, il veut fermer ce Parlement pour effectivement le faire passer en force. Mais ce qui veut dire no deal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est probable qu'il y ait un retour des visas pour aller au Royaume-Uni, que il y a un probable retour d'une frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Donc ça fait peur à une grande, grande partie de l'opinion publique britannique, mais aussi aux Européens. Il y a beaucoup d'Européens qui sont à Londres.
Judith Vintraube, Boris Johnson a marqué un premier point, puisqu'au fond, la justice écossaise lui a donné raison. Hein. Il y a plusieurs actions en justice qui ont été engagées.
Oui, enfin, il a marqué un point temporaire, parce que bien que ce soit la plus longue, effectivement, suspension depuis 1946, elle n'est pas assez longue pour aller jusqu'à la période...
Jusqu'au 31 octobre. Oui.
Voilà,
oui,
du 31 octobre.
Il y aura 15 jours entre la reprise des débats et le Brexit.
Non, il a trouvé un moyen terme entre le cauchemar épouvantable qu'avait subi Theresa May devant la Chambre des communes, vous savez, où elle n'arrivait pas à s'en sortir non plus d'ailleurs, et puis la solution qui, à mon avis, aurait été la plus démocratique, c'est-à-dire provoquer des élections législatives sur ce point-là, puisqu'il y a une telle dissension entre Boris Johnson et les communes qu'on ne voit pas comment ça peut déboucher.
Etienne Girard, très concrètement, donc après le 31 octobre, c'est ce que expliquait sur France Info un responsable de la CFDT douane, David Olivier Caron, qui nous a dit que les politiques, eh bien, je le cite, sont incapables de trancher et vont demander à une administration, la douane, mais aussi à des opérateurs privés, tous les opérateurs du commerce qui travaillent avec l'Angleterre, de s'adapter en un claquement de doigts. Grosso modo, il y aura une sorte de principe de réalité. Les politiques n'arrivent pas à s'entendre, mais ça va se jouer quelque part au forceps sur le terrain.
Bien sûr. De toute façon, il n'y a pas le choix. Si le 1er novembre, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, il faudra d'un instant à l'autre remettre
à
des,
la minute,
des
à la minute, hein.
Voilà. Oui. Alors ce sera pas dans les faits à la minute, ce sera prévu à l'avance et ça entrera en vigueur à minuit 01. Il y aura des postes frontières avec un certain nombre de conséquences. Donc vous savez vers Calais à la frontière franco, là où il y a le tunnel sous la Manche, il y aura des postes frontières avec des vraies conséquences pour les gens là-bas, puisque ce que prévoient les autorités, c'est des embouteillages monstres, puisque il y aura des contrôles 2 minutes au moins à chaque passage de véhicules, donc un temps perdu conséquent. Ouais. Pour tout le monde et un trafic très compliqué dans cette zone-là, et sans compter à plus long terme et de façon plus imprévisible les conséquences économiques. Alors, d'un tel Brexit sur le commerce avec les entreprises du Royaume-Uni.
À ce sujet, Jean-Daniel Lévy, pensez-vous que les entreprises, d'un point de vue économique française, hein, on parle de ce qui se passe chez nous, soient prêtes? Est-ce qu'elles ont qu'elles ont anticipé, mais est-ce qu'on peut imaginer à l'avance le choc que cela peut représenter?
Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a 100 000 entreprises en France qui commercent avec le Royaume-Uni. Dire qu'elles sont prêtes, la réponse est non. On le sait, non. Évidemment. Voilà, mais parce qu'en fait, personne ne sait précisément déjà vers où on va. Déjà, on ne sait pas si il y aura un deal ou pas de deal. Et ce que ça veut dire précisément, le fait de ne pas avoir de deal en tant que tel. Donc, il y aura une situation qui sera une situation peut-être moins visible immédiatement, effectivement, que ce que peuvent être les embouteillages ou les difficultés ou la remise en place d'une frontière, mais des accords économiques qui vont avoir des incidences extrêmement fortes pour notamment les entreprises françaises, visiblement du côté britannique, qui sont un peu moins inquiets. Ils se disent qu'il y a de l'autre côté de l'Atlantique.
Oui, un accord fantastique, c'est ça, possible avec
un accord, M. Trump. Un accord qui peut s'effectuer et qui amènerait peut-être d'ailleurs, quand on regarde les choses, le Royaume-Uni à revenir un peu à ses amours anciennes, en tout cas celles qui dataient d'avant 1972, date à laquelle ils avaient rejoint l'Europe.
Et Mariam Pirzadeh, en conclusion, il faut s'attendre à un choc.
Oui, un choc, mais quand même, Boris Johnson est aux manettes d'un pays. On se rappelle que c'est quand même lui qui avait menti aux Britanniques. Il a d'ailleurs été assigné en justice, il a été disculpé, mais il a menti aux Britanniques en disant...
Il a été disculpé, pardon, juste
avant l'élection.
Les juges disaient, oui, c'est un mensonge, mais il était en campagne. Il n'a pas menti dans l'exercice de ses mandats, c'est ça qui est formidable.
Mais il a quand même menti, c'est-à-dire qu'il a promis aux Britanniques que si demain ils sortaient de l'Union Européenne, ce serait des milliards qui reviendraient. Juste pour savoir, le Royaume-Uni donne 9 milliards par an à l'Union européenne. Voilà.
Allez, il faut conclure. Étienne Girard, la une de Marianne.
Oui, c'est la rentrée, donc on s'intéresse à la situation de l'école. Jusqu'où ira Jean-Michel Blanquer? Interview exclusive.
Ah, très bien, le titre, ça bouge enfin.
Tout
allez,
à fait.
Judith Vintraube, la une du Figaro magazine.
Alors, nous, on est encore un peu léger, on se consacre à la brocante. Pardon, la brocante, c'est tendance pour prolonger un peu l'été.
Et il faut savoir prendre le temps de vivre. Merci Mariam Pirzadeh, Judith Vintraube, Étienne Girard et Jean-Daniel Lévy. Les informés se poursuivent tout le week-end avec un nouveau visage qui va désormais présenter cette émission, Neila Latrousse. Je vous souhaite, Neila, une très bonne chance. On vous suit et on vous soutient demain pour ces informés du week-end. Merci, bonne soirée.